Chloé, Région, Quentin, Bayou,
Havana,
Marc, Botnar,
Fidel
Alexandra, Ciclona,
a Batista combatió, Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió,
porque ya no hay pueblo.
Parol de Pidal.
Como establece la segunda declaración de La Habana,
de Simón Amin.
Un
feuilleton en 15 épisodes.
Aprendimos
a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Cinquième épisode.
En arrivant à la boîte de nuit hier, j'ai trouvé Eusèbe profondément endormi. Il ronflait doucement, affalé sur un des gros canapés de cuir. Sur la table, une bouteille de rhum vide. Un cendrier jonché de centaines de mégots. Chaque détail chez Eusèbe traduit cette attention hors du commun. Jamais il ne m'a laissé percevoir un instant de relâchement. Ses mains, plus que tout, traduisent cette attitude, toujours en suspens, au-dessus de la table, sans un instant de repos. Il est difficile de lire en lui, impossible de distinguer l'humour du sarcasme, la douceur de la ruse. Alors même qu'il ronflait et offrait ce visage d'adolescent endormi, je me méfiais de la rage qui couvait en dedans. Derrière le sourire de son sommeil alcoolisé, veille quelque chose de brisé et de dangereux.
Bonjour, Zeb.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien. Très bien. Tu nous apportes une autre bouteille de rhum, s'il te plaît?
Quoi, le rhum, chez le gros?
Bon, on commence maintenant?
Allons-y. On parle de quoi?
Laissons l'école militaire derrière. Rentrons dans le vif du sujet. En raccrochant les morceaux de votre histoire, ce qui m'a frappé, c'est bien sûr les trois films qui en comptent des bribes, sans savoir jamais qu'ils comptent une seule et même histoire. Partout, votre histoire n'a laissé que des traces, des histoires non terminées.
Notre passage n'a laissé que des traces, des histoires non terminées. Ça, c'est bien une phrase toute faite. Tu es très bonne, hein? Du lyrisme de bazar. C'est ça ton émission? Tout mélanger? Introduire du mystère là où il n'y en a aucun? Notre histoire, elle est très simple. Elle ne comporte que deux chapitres. Le dictateur et le casino. Et elle est totalement terminée. Avec une aiguille plantée dans le bras de Roman.
Entonces, nous sommes partis. ¿Quieres un poco de mate?
Si, 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 por favor.
Se retrouver sur le terrain, c'est désapprendre. Oublier les règles. En inventer de nouvelles pour l'action, mais aussi à l'intérieur de sa propre tête. Nous étions face à un cas d'école. Exécuter un assassinat de cette importance requiert une préparation méticuleuse. Cela s'est traduit par plusieurs semaines, plusieurs mois de planques et d'observations. Ces longues journées de routine présentent toutes les caractéristiques d'un endormissement progressif de l'attention et de la vigilance. C'est la première règle qu'ils avaient apprise. Se méfier des habitudes, se défier des bases confortables, des cocons cachés, rester imprévisible. Nous avons opté pour la solution qui allait à l'encontre de la règle. Nous nous sommes installés dans la rue même de la maison de notre cible. Nous vivions dans un appartement douillet dont nous ne sommes pas sortis plus de 10 fois pendant les 4 mois que dura le round d'observation. Nous avons choisi l'immobilité totale cachée derrière les persiennes. Pour rester invisible, il suffit de ne pas se montrer. Me regala son cigaro.
Si.
4 mois d'enfermement, c'est très long. Gracias. Ça fut possible grâce à eux, grâce à leur enthousiasme tout neuf. Chaque matin, pendant 120 jours, Roman s'est réveillé avec le sourire. Il avait une incroyable capacité à apprécier la routine. Ça ne doit pas être la vie de son épouse. Mais Roman avait toutes les qualités pour rendre le quotidien exceptionnel. Comme si chaque jour, même enfermé entre 4 murs, était une source renouvelée d'émerveillement. Ce fut possible aussi grâce au tabac. Je l'avais appris dans la forêt pendant la guérilla. Le tabac trompe la tente, il la rythme. Tant qu'il y a quelque chose à fumer, la tente est possible. Nous préparions une exécution, un meurtre de sang-froid. Il viendrait un jour où nous passerions à l'action. Une journée pendant laquelle il faudrait tuer un homme et sans doute plus d'un. Eusèbe et Roman n'avaient jamais tué personne. Il n'y avait aucun doute sur leur capacité à passer à l'acte. Mais j'avais du mal à savoir s'ils pesaient les conséquences. Pas sur le plan moral, bien sûr. Tuer un dictateur au sein de leur morale, c'était plutôt une bonne action, mais sur le plan pratique. Eusèbe savait, je pense. Roman, sûrement pas. Tuer un homme, c'est le point de non-retour. Une exécution clandestine comme celle-là nous jetait définitivement dans la marge. Évidemment, nous serions mis au banc des pays civilisés et policés que nous combattions. Nous serions recherchés et traqués dans la ligne de mire de la CIA, du FBI et d'Interpol. Mais nous serions également marginalisés dans la société pour laquelle nous nous battions. Les sociétés, même nouvelles, acceptent rarement les exécuteurs clandestins en leur sein. Il faut être clair. En exécutant cet homme, nous nous excluons de l'utopie même pour laquelle nous nous battions. Cette utopie devenait une utopie au sens strict du terme. Un pays imaginaire et inaccessible. Même pour moi, ce plongeon dans la marge était difficilement saisissable. D'autant plus insaisissable que cette vie que nous menions avait des relents de normalité, sans doute les plus forts que j'eusse vécu depuis des années. Te imaginas? Une vie d'appartement, avec 2 hommes, certes, mais qui présentait beaucoup de traits d'une existence casanière et tranquille. Les plus étonnants étaient que je l'appréciais. Jusque-là, je m'en étais défiée. Et à partir de cette planque, je me suis parfois laissée aller à rêver d'une vie paisible. Des sentiments que je croyais disparus ont ressurgi, des pensées lointaines, remontant à une époque où je me demandais si la révolution pouvait exiger que nous renoncions... Comment dire-t-il ? Peu avant de passer à l'action, nous sommes sortis, Roman et moi. Nous avons quitté la ville et nous sommes promenés. Nous avions tous les attributs d'un couple. Je l'observais quand il marchait, il avait les bustes penchés vers l'avant, sautant d'une jambe sur l'autre, trop plein d'énergie. Il s'est arrêté pour cueillir des fleurs. Il me désarmait. Il était entier dans le sens où sa pensée était toujours en accord avec ce qu'il était en train de faire. Il cueillait des fleurs, et à cet instant, il était inapte à toute violence. Mais sans doute pas inapte au bonheur. Parfaitement inapte à la révolution. On m'avait demandé lors de nos premiers contacts pourquoi j'acceptais de parler aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que Roman était le meilleur d'entre nous. Pour toutes ces années qu'il a passées dans le couloir en continuant à y croire, pour lui c'était une attitude évidente. Il était inapte à faire la révolution, mais il ne vivait que pour ça. C'est Roman qui a tué le dictateur, seul, Il était tombé par la fenêtre quand nous étions entrés. 3 étages à son âge, cela aurait dû suffire. J'ai envoyé Roman vérifier. J'étais déjà dans le véhicule avec Zeb quand nous avons entendu la détonation. Roman est revenu avec des petites éclaboussures de sang sur sa chemise. Il avait achevé le vieil homme sans aucun état d'âme. Il faut dire que c'était la cible idéale. Roman et Euseb n'avaient aucune formation politique. Politiquement peu développée, comme on disait. Moins de 20 ans. Cet homme, pour eux, c'était un symbole simple qui entrait parfaitement dans le cadre de leur raisonnement. Lorsque nous sommes rentrés, le département de devises avait été créé. Nous n'en étions qu'une part infime. Ramener des devises peut prendre des formes très diverses. Enlèvement, attaque à main armée, c'est l'évidence, mais aussi trafic des drogues en Amérique latine, pierres précieuses et ivoire en Afrique. La seule chose qui avait été bannie était la fausse monnaie. Barberousse m'avait entendu sur le sujet. Il nous avait concocté un enlèvement. Le président d'une compagnie pétrolière américaine. Quelques années auparavant, j'avais déjà séquestré des otages. J'avais trouvé cette première expérience particulièrement pénible, quand bien même nous avions alors le soutien de tout un réseau de guérillas. Un enlèvement en franc-tireur, ça allait être pire encore. Euseb était emballé par l'idée, Roman restait sur la réserve. Il ne se projetait jamais dans l'avenir. Pourquoi donner son avis sur un événement qui ne s'est pas encore déroulé ? Il trouvait ça un peu stupide.
Au départ, c'est une histoire de cinéma. Un assassinat politique. Deux faits de grand banditisme. La mort du dictateur, de Carlos Radel. Violent kidnapping, de Pierre Guérin. Un film français, malgré le titre. Et Flying Casino, de Richard Balin. Tout le monde a vu. Tout le monde connaît. C'est la mémoire collective. Pourtant, une vérité remarquable fait défaut à la légende. Laquelle ? Deux vérités ? Trois vérités ? La vérité ?
Mademoiselle ? Vous avez du feu ? Vous ne fumez pas ? Vous n'avez peut-être pas de feu ?
L'argent.
L'arrivée, rien à ajouter au film de Radel. La pochette d'allumettes avec l'adresse de l'hôtel et le grand crétin qui se trompe de nom. Loyal attendu pour les photos d'identité du nouveau passeport. Pour se venger aussi, un peu. C'était pas qu'il tenait tant à ses cheveux, mais c'est comme Samson. Une charge symbolique. Les traces des histoires inachevées. Et moi, j'enfonçais le clou. Je disais combien c'était dommage pour les trois R. Roberto, Ricardo, Ramona. C'était bien, non? C'était nos faux noms. Exit Roberto. Ça le mettait dans tous ses états. Hein. Il s'enfonçait dans sa chaise, les mains posées à plat sur la table, comme s'il était prêt à se faire taper sur les doigts avec une règle. Il était un peu piteux, hein. La tête penchée en avant, alors que Loya coupait court. Les cheveux tombaient entre ses mains sur la table. Il était très marqué par les symboles. Je suis sûr qu'il fonctionnait comme ça à l'intérieur. Les choses bien rangées, claires, pour ne jamais se faire submerger. Je l'adore, ce copain. En définitive, la seule chose qui importait, je veux dire, il n'avait pas été arrêté. Il fallait de nouveaux papiers. Et ça allait nous coûter une paille. On était arrivés chacun avec 500 dollars. C'était quand même une bonne somme. Mais ça a tout filé dans les faux papiers. Comme tu vois, ça commençait bien. Hein.
Vous me dites que vous étiez parti pour une opération pareille, avec 1500 dollars, et que vous ne pouviez pas demander une rallonge de fonds.
T'es conne ou quoi? On va pas frapper à l'ambassade en disant « On vous a sans doute prévenu, nous sommes venus tuer le dictateur, on aurait besoin de 200 dollars ou 300 dollars. » Mais t'as vraiment rien compris, on était largués dans la nature. Trois, tout seuls. Ni l'argent, ni les armes, ni les hommes ne devaient permettre de remonter jusqu'au commanditaire. On n'avait rien du tout. Et c'était la règle du jeu. Tu te débrouilles, t'es seul, tu réussis ou tu crèves. Ici ou en rentrant. C'est pas James Bond avec Q qui débarque pour faire le camelot. En même temps, on savait faire. Ça, c'est les cours de guérilla urbaine. Tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour avoir les armes et le matériel nécessaire à l'opération, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut une arme. On peut travailler aussi, mais ça, on nous l'avait pas appris. Je peux te le dire, l'adrénaline, elle montait. Je t'en reparlerai de l'adrénaline.
Parole de Pirate de Simone Amino. Chloé Région Loya. Quentin Bayou et Eusebe. Marc Bornard. Román. Alexandra Cicluna, la journaliste. Et Carolina Pechené. Luis Martínez Saiz. Brontis Jodorowsky. Hervé Furik. Miglen Mirchev. Musique Jacques Mouniard. Philippe Thibault. Montage Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Philippe Bredin, Manuel Couturi. Assistante, Alejandra Malca. Realización, Claude Guerra.